RTF Limoges, le magazine culturel.
Ouvrant le début de la saison lyrique 2023-2024, La vie parisienne, d'après Offenbach, est un opéra bouffe en 5 actes. Pour cette occasion, j'ai le plaisir de pouvoir interviewer Arlinda Roux Majalari, chef de chœur à l'Opéra de Limoges. Avant de pouvoir parler de La vie parisienne, je voulais savoir s'il était possible pour vous de présenter votre rôle au sein de l'Opéra de Limoges.
Bonjour. Donc, effectivement, je suis depuis un an maintenant chef de chœur de l'Opéra de Limoges. Mon travail de chef de chœur consiste à organiser un petit peu selon la saison qui a été fixée, qui a été mise en place par la direction artistique, d'organiser le travail du chœur autour des ouvrages de la saison, en fonction des ouvrages, la difficulté, le planning. Donc, une fois que le planning est établi, après, il y a tout un travail musical à faire qui consiste à l'apprentissage par cœur des ouvrages, mais qui consiste également à faire en sorte que les artistes du chœur arrivent en répétition scénique, c'est-à-dire au moment où ils vont intégrer la mise en scène, donc le théâtre, voire la chorégraphie, comme c'était le cas pour eux, comme c'est le cas déjà pour La vie parisienne et comme ce fut le cas pour Faust l'année dernière, Somnambule et également Cendrillon, des opéras où on leur a demandé non seulement de participer dans la mise en scène, juste théâtral, mais aussi chorégraphique. C'est-à-dire que par moments, ils ont carrément fait de la danse. Donc, en fait, pour que des artistes du chœur, alors, qui sont au départ chanteurs de métier, puissent intégrer avec facilité tous les éléments de mise en scène et de chorégraphie, il est absolument indispensable qu'ils arrivent avec une partition sue, parfaitement sue, de façon à ce qu'ils n'aient plus aucun autre souci que de rajouter à ce qu'ils connaissent musicalement, de rajouter donc tout ce qui fait partie de la mise en scène, tous les déplacements sur scène, tous les état d'âme que le metteur en scène va leur demander ou toute la chorégraphie qu'il faut qu'ils intègrent.
Vous avez pu, dans votre carrière, diriger des œuvres très différentes. Est-ce qu'Offenbach est une première pour vous ou étiez-vous familière avec son répertoire ?
Alors, effectivement, j'ai dirigé beaucoup d'ouvrages. Offenbach, je connais bien, mais je le connais surtout en tant que chef de chant, parce que je suis de formation au départ pianiste accompagnatrice de chanteur lyrique. Donc, j'ai fait beaucoup d'ouvrages, beaucoup de concerts et des productions en tant que pianiste. Et c'est par la suite seulement que je me suis dirigée donc vers la direction de chœur et que je me suis formée là-dessus. Et donc, je connais bien Offenbach, notamment pour avoir fait comme chef de chant à l'Opéra National de Paris, Les Contes d'Offane, un ouvrage que j'affectionne particulièrement d'Offenbach. D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand on connaît quand on écoute La vie parisienne et qu'on connaît Les Contes d'Offane, dans tous les passages lyriques de La vie parisienne, on retrouve beaucoup, beaucoup d'échos avec Les Contes d'Offane. Donc voilà, c'est la première fois que je fais travailler Offenbach, en tout cas une opérette, en tant que chef de chœur.
Au jour où nous parlons, La vie parisienne fait sa première dans quelques jours. Dans quel état d'esprit êtes-vous ?
Alors, je suis très enthousiaste. Je suis vraiment enthousiaste et excitée à l'idée de présenter au public de Limoges cet ouvrage qui, pour moi, est un feu d'artifice de tout point de vue, aussi bien musical, théâtral, mise en scène, chorégraphique, costume, lumière. Donc c'est une œuvre qu'on écoute avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de facilité. Il y a pas mal de répétitions, ce qui fait que en fait le public peut carrément sortir en sifflant ou en chantant un petit bout de la musique qu'il a entendue. Et puis on a le sourire du début à la fin de l'ouvrage et ça fait du bien dans le contexte un petit peu sombre parfois d'aujourd'hui.
Pour nos auditeurs, pourriez-vous nous parler rapidement de La vie parisienne ?
La vie parisienne, c'est une commande du théâtre du Palais Royal en 1866, où à l'occasion d'une exposition universelle, la direction du théâtre a demandé à Meillac, Halévy et Offenbach d'écrire un ouvrage dans lequel on parlait de la vie parisienne tout court, de Paris et de ses coutumes. Et effectivement, La vie parisienne, c'est vraiment, ça représente de manière carrément, comment dirais-je, non seulement ses coutumes, mais il y a des lieux de Paris qui se présentent, qui seront présentés dans cette vie parisienne. Il y a par exemple la gare Saint-Lazare, ça commence avec ça, avec le train de l'Ouest. Vous avez aussi le Grand Hôtel. Il y a un café anglais qui était pas loin du Palais Royal, si mes souvenirs sont Chambon, de ce que j'ai cru comprendre. Il y a beaucoup de lieux. Donc, il y a par exemple le musée de l'artillerie qui est évoqué. Donc, il y a véritablement des lieux de Paris qui sont évoqués. Et dans la scénographie, par exemple, vous verrez une grande gare, dès le départ. Et dans cet ouvrage, il y a également beaucoup de clins d'œil en matière de politique ou de la vie de tous les jours, de la vie de Paris de l'époque, en fait. Par exemple, paraît-il, pour cette exposition universelle de 1866, il fallait agrandir la gare. Seulement, ça a pris du retard. Donc, effectivement, dans la mise en scène, on a mis donc dans le décor un hall de gare flambant neuf, clin d'œil au retard des travaux, etc. Donc, il y a beaucoup de clins d'œil, il y a beaucoup d'esprit. Il y a également ce qui se faisait beaucoup à l'époque, beaucoup de personnages qui sont pris dans cet ouvrage, mais d'autres ouvrages qui avaient été créés auparavant. Et comme ça, en fait, pour le public, c'était des repères. S'ils avaient bien aimé un personnage d'une autre opérette ou d'un vaudeville, eh bien, ils allaient le retrouver dans la vie parisienne. Ou l'inverse, ceux dont on a parlé dans la ville parisienne, ils vont le retrouver un petit peu plus tard. Donc, et l'esprit de l'opérette, c'est vraiment un esprit très léger. C'est tout un... En fait, on se sert le prétexte pour passer dans une dédale de situations improbables. C'est juste deux personnages, deux jeunes, des amis qui veulent s'amuser, qui veulent se venger un petit peu par rapport à une fille qui les aurait délaissés. Donc voilà, donc ils cherchent un petit peu des personnages, ils cherchent un couple suédois, par exemple, un baron et une baronne. Et en fait, tout tourne autour de ça. C'est un prétexte à l'amusement et à la légèreté.
Du coup, la vie parisienne, c'est un peu un événement pour cette saison, puisque ça marque le début de la saison lyrique. Est-ce que c'est un élément qui vous a influencé dans la façon dont vous avez travaillé pour préparer ce spectacle ?
Chaque ouvrage a son importance et pour chaque ouvrage, on se prépare au mieux. Donc, il y a pas, je ne vais pas, par exemple, me dire attention, cet ouvrage, il faut que je m'y prenne mieux qu'avec d'autres. Le niveau de préparation et le niveau d'exigence est exactement le même. Après, évidemment, vous avez des spectacles qui sont plus ou moins difficiles. Vous avez des mises en scène qui sont plus ou moins difficiles. Vous avez des temps de préparation plus courts. Et effectivement, je peux dire que dans la vie parisienne, tout est un petit peu assemblé dedans. C'est-à-dire que le temps de préparation était assez court, le chœur est extrêmement impliqué dans la mise en scène et dans la chorégraphie. Donc il y a énormément à faire en plus du chant. Déjà qu'il est omniprésent quasiment, à part quelques pages où il est absent, il est tout le temps sur scène. Donc en fait, si vous voulez, en plus c'est effectivement le premier ouvrage de la saison lyrique, l'ouvrage qui ouvre la saison lyrique. La pression est peut-être un petit peu plus forte, mais tout ce qui peut changer dans ma manière de voir les choses et de faire les choses, c'est comment je vais m'y prendre pour en très peu de temps faire en sorte que le chœur soit prêt.
Vous venez de le dire, mais du coup, le chœur a donc une grande importance dans la vie parisienne. Pourriez-vous nous parler de son rôle ?
Dans beaucoup d'ouvrages, le chœur, en général, représente le peuple, la masse. Il se trouve que dans cet ouvrage-là, effectivement, comme il y a plusieurs scènes différentes, le chœur va représenter plusieurs masses différentes. Par exemple, au tout début, c'est les employés de la gare. Donc vous aurez les costumes qui vont avec. Par la suite, les deux personnages, Bobinet et Garde-feu, ils vont inventer tout un tas d'événements pour pouvoir justifier ou arriver à bout de leur... Je ne vais pas tout raconter l'histoire, du coup, parce que sinon, c'est pas drôle, il faut la découvrir. Mais donc, en fait, par exemple, ils vont organiser une soirée. Et pour organiser cette soirée, ils ont besoin de gens, de monde. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont demander à leurs amis, même à des gens qu'ils ne connaissent pas du tout, de venir à cette soirée en se déguisant en personnages de haute société. Voilà. Donc, et là, donc, le chœur aura un autre costume. En tout et pour tout, je crois qu'ils en ont 7 costumes différents pendant le spectacle. Donc, et à chaque fois, ils sont des personnages différents. Par exemple, à un moment donné, ils vont être gantier et gantière. Ils vont être autour de la gantière, qui est donc la soliste, la chanteuse soliste. Il y a deux chanteurs solistes et autour de ces deux-là, il y a le chœur. Donc voilà, donc je disais que en fait, à chaque fois, le chœur représente la masse et selon l'endroit où on est, ils prennent des personnages différents et des costumes différents. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure que cet opéra, c'est un vrai feu d'artifice parce que vraiment, du début à la fin, c'est... entre la musique qui est très 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 joyeuse, il y a des très beaux moments lyriques aussi dans la musique, hein, mais voilà, c'est un feu d'artifice quoi, de tout, de mise en scène, de lumière, de danse, de tout ce que vous voulez.
Du coup, comment s'est déroulée la préparation du chœur ces dernières semaines ?
Alors justement, je disais tout à l'heure que le temps de préparation a été très court. La difficulté donc de cet ouvrage, c'est qu'il a déjà été monté, puisque c'est une coproduction avec d'autres maisons d'opéra. En temps normal, quand on fait une production maison, entre guillemets, on prend le temps, 3 semaines, 4 semaines, de faire la mise en scène, de s'habituer aux demandes de metteur en scène et tout ça. Là, nous n'avons pas du tout ce cas de figure, puisque c'est une production qui a déjà été montée ailleurs. Donc en fait, là, c'est la version très réduite de la préparation. D'où cette exigence d'apprentissage le plus efficace possible. Nous avons dû, à un moment donné, même les faire venir un petit peu plus tôt. Une journée, nous avons utilisé un moment où il fallait faire des essayages de ces fameux costumes, et on s'est dit que ça serait bien que, dans la même journée, nous fassions des répétitions. Ce qui m'a permis d'avoir les groupes, d'avoir le chœur en 2 groupes. La spécificité de cette production, c'est qu'il n'y a que 12 chanteurs sur les 28 qui sont sur scène. Un jour, j'ai travaillé avec les dames, un autre jour avec les messieurs, ce qui m'a permis d'aborder l'ouvrage qui est très long. Ça dure 3 heures, il y a 3 heures de musique, avec sérénité, parce que quand vous avez 2 pupitres seulement, il y a plus de temps. Finalement, on peut s'attarder un petit peu sur l'apprentissage de la partition. On gagne du temps. Enfin, on double le temps, comme ça, on gagne du temps d'apprentissage. Et l'enjeu, pour moi, c'était, dès le départ, de faire en sorte que le par cœur, l'apprentissage du par cœur, vienne au plus vite. Parce que quand on a le temps, on apprend par cœur à force de répéter. Mais quand on n'a pas le temps de répéter, eh bien, on fait comment? Et on trouve, des mécanismes, on trouve des clés, des façons de répéter pour que les chanteurs s'en souviennent tout de suite. Une fois qu'on l'a chanté, on a analysé le texte. En fait, c'est comme si vous analysez un petit peu un texte en français. C'est pareil pour la musique, hein. Il y a moyen de la décortiquer, entre guillemets, de façon à mémoriser. Vous savez, par exemple, dès le départ, quand on a un endroit à la page 46 qu'on va retrouver à la page 98, je leur dis ce qu'on vient de faire maintenant, sachez que vous l'aurez plus tard à cet endroit-là. Donc il y a beaucoup de, voilà, il y a ces comparaisons, travail de texte, travail d'harmonie, notamment il y a une chose qui aide beaucoup à la mémorisation, c'est aussi l'expression. Qu'est-ce que vous allez y mettre? Quand par exemple à un moment donné ils chantent le ciel est noir, il va pleuvoir, alors si vous y mettez ça, vous allez vous souvenir aussi de ce que vous dites, vous voyez ce que je veux dire? Et puis ça va avec la musique, donc c'est un tout. Donc mon travail pour cet ouvrage-là, c'était ça, avoir une efficacité d'apprentissage, maximum d'apprentissage dès le début.
L'opéra qui se joue à Limoges est prévu en 5 actes, alors que plus traditionnellement, il est joué en 3. Pourquoi avoir fait ce choix du coup des 5 actes?
Cette production de La Vie parisienne est une production du Palazzetto Bruzzane, qui est le centre de la musique romantique française, en fait, qui est basé à Venise. Ils ont pour mission de faire de la recherche sur la musique romantique française du 19e. Et donc, ils font beaucoup de productions, ils font beaucoup de concerts, des disques, mais leur travail consiste à aller faire des recherches plus poussé à l'origine des œuvres. Cette version donc de Palazzetto Bruzzane est une coproduction avec le théâtre des Champs-Élysées, le théâtre de Tours, de Montpellier, donc de Limoges, de Liège et de Rouen. La Vie parisienne, en fait, c'est un ouvrage qui, à l'époque, était écrit sous cette forme comme vous allez l'entendre ici à Limoges. Seulement, il faut savoir que à l'époque, il a été écrit pour la troupe du Palais Royal. Or, c'était plus une troupe de comédiens que de chanteurs. Donc en gros, au départ, c'était un petit peu une pièce de théâtre avec des parties chantées. D'ailleurs, paraît-il, Offenbach a été extraordinaire parce qu'il en a tiré le mieux et le meilleur de tous ces comédiens chanteurs. Là, chez nous, vous aurez l'inverse à l'Opéra de Limoges. Vous aurez des chanteurs qui sont également des comédiens et des danseurs. Mais c'est vrai que du coup, à l'époque, ça a fait un grand débat, puisque paraît-il, les comédiens avaient beaucoup de mal à chanter certaines parties, parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'opérette, c'est un genre très difficile à chanter. Et d'autant plus difficile, puisqu'on vous demande de faire beaucoup sur scène. Comme c'était difficile, donc on a essayé de faire en sorte que le 4e et 5e acte soit réduit. Du coup, on en a fait quelque chose qui sortait un petit peu du contexte finalement du numéro 1, 2 et 3 et qui laissait le public un petit peu sur sa faim. Puisque c'est vrai que ça part dans une... C'est une espèce de vaudeville en fait aussi. Hein. Tout est prétexte à amusement, il y a beaucoup d'air très, très facile à mémoriser, etc. Et une fois qu'on est dans cette lancée-là, on a compris le style de l'ouvrage. La fin arrive de façon complètement subite et subitement comme ça, et on comprend pas pourquoi ça s'arrête en fait. Donc paraît-il, déjà à l'époque, le public était un petit peu perturbé à la fin. Pourquoi ça s'arrête d'un coup ? Donc en fait, la recherche de Palazzetto Bolzano consiste à ça, c'est-à-dire qu'ils ont fait des recherches très poussées du contexte historique, économique, etc. de l'époque, et donc ils sont arrivés à cette représentation complète de l'ouvrage, qui je pense est tout à fait justifiée.
Alors, je n'ai plus de questions. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions. Pour rappel, La vie parisienne, d'après Offenbach, ouvre la saison lyrique 2023-2024 de l'Opéra de Limoges.
C'était le magazine culturel sur RTF. Retrouvez-nous également sur internet rtflimoges.com.